Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce podcast en 3 épisodes réalisé à la suite des conférences organisées en mars 2023 par Bellastock autour de l'apprentissage par le faire. Ce deuxième épisode donne la parole à 2 lieux outils qui ont été conçus pour accueillir des pédagogies expérientielles et permettre de la construction à l'échelle 1. Les grands ateliers à Lyon et le CAP à Évry-Courcouronnes. Ces rencontres ont été l'occasion d'entendre des solutions pour faire avec les écoles et penser des pédagogies innovantes. Ce cycle de rencontres fait écho à la 17e édition du festival Bellastock intitulé « Cité apprenante » qui aura lieu du 13 au 16 juillet à Évry-Courcouronnes.
Du coup, on va commencer peut-être par les grands ateliers parce que c'est la structure la plus ancienne. Donc on reçoit Bruno Vincent, donc, qui est coordinateur pédagogique des grands ateliers, et donc Pascal Rollet qui joue 2 casquettes ce soir puisqu'il sera enseignant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là il est pour cette phase là il s'exprime plutôt en tant qu'architecte du lieu des grands ateliers. Donc ma première question elle est assez simple, c'est qu'est-ce que c'est les grands ateliers?
Alors les grands ateliers sont nés il y a 20 ans, 25 ans même. Ça démarre avec une utopie d'enseignants, des enseignants qui voulaient faire une pédagogie différente. Cette utopie, c'était de rassembler 3 corps de métier, des architectes, des artistes et des ingénieurs dans le même lieu et les faire travailler ensemble. Alors ces grands ateliers sont nés et ont progressé comme ça pendant ces 20 années. Avec des étapes. Donc la première étape, ça a été les prémices des grands ateliers, donc en 95, 96, 97. C'était les journées d'automne, et ça, c'était un rassemblement de ces trois spécialités, avec des étudiants qui sont venus sur un site à l'île d'Abeau, dans le Nord-Isère, pour faire des workshops. Donc ça a été remarqué par le ministère de la Culture. Et à partir de ce départ-là, le ministère a lancé un concours et a voulu créer un bâtiment pour pérenniser un petit peu ses actions. Donc en 2000, le bâtiment a été conçu et réalisé. 2001, fin des travaux et inauguration des grands ateliers. 2002, les premiers modules pédagogiques. Donc c'était le ministère de la Culture qui était un petit peu à l'initiative de ce bâtiment et de la construction, avec l'équipement à l'époque, qui était le ministère aussi des écoles d'ingénieurs. Pardon. Et on est monté en puissance comme ça sur environ 8 ans. Et après, on est passé sur... une autre échelle, puisqu'on a eu les grands prototypes qui ont été développés dans ces grands ateliers, donc les Solar Décathlon, 2010-2012. En 2013, un autre prototype Terra Nostra. C'était un bâtiment en terre aussi qui a été conçu et réalisé aux grands ateliers. En 2012, on a eu aussi... Une grande étape, ça a été la naissance de AMACO. AMACO, c'est l'acronyme de Atelier Matière à Construire. C'était un IDEFI. Donc là, 18 personnes à l'époque sont venues grossir l'équipe des grands ateliers en travaillant sur la matière, et notamment sur les matières en grains, avec un développement assez important autour de la construction en terre. En 2017, toujours dans cette idée d'une mixité culturelle et de mélanger les genres, la Maison des Compagnons est venue s'installer tout près des grands ateliers. Donc on a accueilli de la formation plutôt en charpenterie aux grands ateliers. Donc on a fait aussi des mélanges entre des écoles d'architecture et des formations chez les compagnons. Et en 2018, une autre grande étape, ça a été la transformation du statut. Donc le départ des grands ateliers, c'était un groupement d'intérêt public avec des écoles membres, toujours des représentants des 3 spécialités. c'était très lourd à, comme gestion, très lourd comme organisation. Le management était un peu compliqué. Le ministère de la Culture a voulu faire changer ça et on est passé sur une SAS et puis une fondation. Donc là, ça a été aussi une étape assez importante avec une grosse diversification des prestations. Et puis pour finir, en 2022, aussi une participation au Soir Décathlon. Donc tout ça, ça a été des grandes étapes qui ont construit ces grands ateliers. Ça s'est fait un petit peu, justement, dans tout ce temps-là, avec toujours cette utopie de mixité, et puis avec un objectif de faire une pédagogie différente basée sur le faire, et sur faire toucher les étudiants et de les faire travailler pour plus qu'ils restent sur le projet papier.
Merci Bruno. Du coup, Pascal, est-ce que tu peux... Donc là, on a parlé vraiment de l'historique d'une idée et comment elle s'est pérennisée et comment ça devient un outil. Mais je pense que, pour l'avoir fait visiter à des gens, c'est vrai que même si on l'a vu en photo, donc c'est un lieu qu'il faut découvrir. Et une fois qu'on est dedans, on comprend un peu l'enjeu un peu de cet espace. Donc comment est fait le lieu et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste un atelier dans lequel on vient mettre de la pédagogie, mais qu'il a bien été conçu pour faire de la pédagogie?
C'est un bâtiment hybride, typiquement, et par le programme, et par les espaces, c'est le mélange des espaces entre eux. C'est un hybride entre une usine de préfabrication, atelier de charpente, préfabrication, atelier métallerie, charpente métallique. C'est un hybride entre un lieu de formation et recherche, puisque des fils à l'intérieur... en activité entre 25 et 150 étudiants tous les jours. Et c'est aussi un hybride entre un lieu de spectacle, parce qu'on peut y faire des représentations, on peut y faire des conférences, des festivals, des spectacles même. Donc la conception, elle est le résultat de cette hybridation totale. C'est d'abord une grande plateforme de 90 mètres de long par 45 mètres de large, avec une dalle en béton de 60 cm d'épais pour faire tourner des camions qui sont des poids lourds 35 tonnes. C'est une grande toiture qui met tout ça à l'abri, une toiture assez légère et transparente pour pouvoir quand même avoir le plus de lumière possible pour être dehors mais à l'abri. Et puis ce sont une série d'ateliers où il y a des machines et surtout une grande halle qui permet de monter, une fois qu'on a usiné des matériaux, de monter des prototypes à l'échelle 1. Cette grande halle, elle fait une dizaine de mètres de haut et elle est desservie par des ponts roulants qui permettent de lever des charges assez lourdes. Voilà, et le système est en boucle suivant un dispositif un peu industriel, les matériaux arrivent d'un côté, ils sont usinés dans les ateliers, ils passent dans la grande halle et après ils peuvent sortir.
Pour visualiser ça, vous n'hésitez pas à aller sur le site des grands ateliers qui est conçu vraiment autour du dessin du lieu lui-même, parce qu'en effet, même par la description précise, c'est peut-être pas facile de se le figurer. Donc merci. Peut-être on va passer du coup maintenant sur le CAP qu'on voudrait décrire comme un petit cousin des grands ateliers et qui devient très vite un grand cousin. Peut-être je vais commencer avec Katia, juste nous dire qu'est-ce que c'est le CAP.
Merci. C'est ça, c'est le petit cousin, des grands ateliers. Dans l'historique des grands ateliers, à partir du moment où le ministère de la Culture s'est un peu dessaisi du soutien qu'il apportait aux grands ateliers, les écoles d'architecture francilienne se sont retrouvées quand même assez embêtées et avec beaucoup moins de facilité pour pouvoir aller aux grands ateliers. Et donc il y a eu cette envie et ce besoin de plus en plus grandissant d'avoir un équivalent pour l'Île-de-France pour pallier aux problématiques de distance, de coût aussi. Et voilà, c'était une idée qui restait, qui s'entendait, qui se discutait. Et puis un beau jour, cette idée a commencé à prendre forme par deux situations qui n'étaient pas forcément en lien mais qui se sont retrouvées parallèles. D'un côté, le ministère de la Culture se demande mais il faudrait peut-être faire quelque chose pour pouvoir développer l'échelle 1 en Ile-de-France et pense à Bellastock pour piloter cette aventure-là. Et dans le même temps, côté Belleville, l'école était missionnée par la DRAC pour travailler sur l'étude de la labellisation archi-contemporaine remarquable de la ville nouvelle d'Évry. Rien à voir, a priori. Et on se retrouve sur le site, et au détour de nos échanges, la ville nous demande un avis patrimonial sur la valorisation d'un château. Donc en voyant les lieux, on a tout de suite pensé que ça pourrait être un lieu pour accueillir cette idée de grands ateliers version Île-de-France. Donc on s'est tout de suite mis à travailler ensemble avec Bellastock, avec les enseignants qui avaient cette volonté sur l'ensemble des écoles franciliennes, constituer un comité de pilotage pédagogique dont certains des enseignants sont là, Dominique qui est ici aujourd'hui aussi. Et tout simplement, on a commencé à construire ce projet, à le développer avec...
Du coup, on va commencer peut-être...
Vraiment incroyable de l'énergie de l'équipe Bellastock qui a mis en place le festival Bellastock sur le territoire d'Évry et sur le site lui-même, dans le cadre de la préfiguration du lieu. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un lieu qui comporte un château, alors petit château, de 1000 m2, qu'on est en train de réhabiliter. Sur un terrain qui va atteindre les 12 hectares à peu près, en bord de Seine, dans un bois, dans un quartier historique au bord de la ville nouvelle d'Évry. Donc on est sur un environnement qui a des sources jusqu'au XIVe siècle, au pied d'une ville toute neuve qui est un territoire vraiment grandiose d'expérimentation architecturale, urbaine et paysagère de son époque. Donc voilà, c'était le lieu parfait pour parler d'expérimentation, et aujourd'hui c'est ce qui s'y passe. Depuis 2018, on accueille des activités sur place, des étudiants, des modules, pas encore aussi régulièrement qu'aux grands ateliers, mais on est en train de s'équiper, et à terme on atteindra des prestations et des services comme le fait d'avoir nous aussi une grande halle pour faire de l'échelle 1 et tout un tas d'équipements comme ça. Voilà.
Merci. Du coup, bah, je ne vous ai pas présenté volontairement parce qu'en fait, donc Katia Roux et Antoine Aubinet, mais vous avez un rôle qui a évolué en fait par rapport à cette structure-là. Donc peut-être commencer, Antoine, par préciser ce qu'a fait Bellastock sur ce projet-là, et puis ensuite expliquer du coup comment votre rôle a évolué aujourd'hui.
Oui. Ben, le ministère de la Culture voit bien que le festival Bellastock, ça fait 16 ans qu'on expérimente à échelle 1. Ce qui était un cadre festif d'expérimentation, petit à petit, on se rend compte qu'avec les conférences, il y a des enseignants ou des mentors qui sont présents sur place, qui transmettent leur savoir-faire. C'est devenu un vrai outil pédagogique. Et donc le ministère de la Culture nous dit, qu'est-ce qui se passe si le festival prend place dans un lieu et que vous dispensez ce type de pédagogie? Et c'est là où Bellastock va commencer à travailler sur ce lieu. C'est grâce à Jean-Paul Midan qui est dans le fond et Katia Roux qui était en train de travailler sur la labellisation du territoire qui nous disent « Yasle, formidable, venez voir, on débarque, il y a un arrêt de RER qui est au pied de 11 hectares de bois, ce château et potentiellement une zone plane pour pouvoir expérimenter ». Et donc là le point de départ ça a été de se dire « Ok, il faut qu'on écrive les grandes lignes de ce projet ». Donc déjà CAP c'est « Centre, Art, Architecture ». Paysage, patrimoine. Donc la première idée, c'était un peu comme vous l'aviez fait avec les ingénieurs et artistes, qu'est-ce qui se passe si on croise les disciplines sur ce lieu, et on verra qu'avec le festival, on a réussi à montrer que ça avait une vraie valeur pédagogique, et si on arrive à monter des modules d'enseignants qui sont en école d'art, de paysage et d'archi, il y a vraiment des notions intéressantes qui peuvent, une porosité qui a à voir dans cette pédagogie. Donc ça, c'était la première notion clé. La deuxième, c'est le cap, il ne doit pas être destiné que à la formation initiale, donc aux étudiants en école d'architecture ou paysage. Il faut aussi que ça soit un lieu ressource pour les professionnels. Il faut que les agences d'architecture d'Île-de-France puissent venir sur place, se former au réemploi, au biosourcé, et j'en passe, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de réfléchir à une architecture qui serait plus respectueuse et plus durable. Donc ça, c'est le deuxième aspect qu'on a défendu. Et puis après, il y a les engagements qu'on a pris au sein du territoire. C'est se dire, si c'est un lieu-outil, qu'il y a toute cette matière grise qui va se croiser à cet endroit, quel est l'impact qu'on peut avoir sur le territoire d'Évry? Katia disait, c'est un lieu d'expérimentation. Depuis les années 70, on a testé des tas de choses Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui on a, nous, notre forme d'expérimentation autour de l'écologie, ramener l'échelle humaine aussi sur place, parce que ça a été dessiné pour les bagnoles à l'époque. Et donc, ce qu'on a proposé à la ville, c'est d'une part des événements ouverts au public. Donc là, c'est ce qu'on fait avec les trois festivals, et faire en sorte que cet endroit soit ouvert, accessible, que également on puisse accueillir des jeunes du territoire pour leur donner l'envie de ce monde de la construction, de l'aménagement, de la conception également. Et puis, une fois qu'on avait écrit les grands objectifs du projet, ce qu'il a fallu faire, c'est rassembler les partenaires. Honnêtement, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Ça fait 5 ans qu'on est dessus. Alors aujourd'hui, il y a 2 ministères, l'écologie, la culture. Il y a 6 écoles d'architecture. Il y a la région Île-de-France, l'agglomération, la ville. Et tout ce beau monde, il faut les réunir autour du projet. Alors, on apprend au travers de l'histoire des grands ateliers qu'il faut être patient. Ça a pris 10 ans à voir le jour, donc il ne faut pas trop qu'on espère que ça éclot comme ça. Mais il a fallu constituer ce réseau de partenaires. Et comme on sentait que ça pouvait très vite s'éteindre, on s'est dit, ok, de quel outil assez merveilleux on dispose pour faire vivre ce lieu, on va ramener 3 festivals sur place. Et c'est là où, en gros, on a utilisé le festival pour écrire un récit. Donc il y a 2 ans, c'était s'implanter, l'année dernière, s'outiller, et puis cette année, ça sera s'ouvrir. Le but du jeu dans s'implanter, c'était comment on arrive sur place. Ça a été fermé pendant 10 ans, donc la biodiversité s'est recréée, et il fallait travailler sur l'aspect paysager du lieu. La deuxième année, c'était s'outiller avec les compagnons du devoir cette fois-ci. De quels outils on a besoin demain pour faire école? Et j'entendais dans Archi en lutte, qu'est-ce qu'on va faire demain de nos écoles? C'était ça, c'était de quels outils on met à disposition des étudiants pour qu'ils s'emparent aussi de ce qu'ils peuvent apprendre. Et donc c'était ça. Et le troisième, c'est s'ouvrir, c'est ce qu'expliquait Quentin. On ouvre le lieu et donc suite à ces 3 festivals, il y a un réseau de partenaires qui s'est créé. Il y a des financements qui importants d'investissement sur le lieu. Donc aujourd'hui, c'est Katia qui s'en occupe. Donc Katia, on s'est rencontrés au tout début de l'aventure. Et par chance, la ville a offert un emploi. Katia a eu un emploi au sein de la ville qui était chargée de développement du CAP. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup accéléré les choses. Puisque avant, on faisait avec le temps dont on disposait. Et depuis que Katia est à bord, eh bien, il y a des financements qui sont arrivés et il y a un investissement très lourd qui va se faire sur le projet puisqu'il a été sélectionné dans le cadre du contrat plan État-Région. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les 6 écoles d'architecture, elles sont en train de se conventionner avec le CAP. Et en fait, ce qui a été dur, je trouve, c'est de convaincre. En fait, il y a des gens qui arrivaient, une nouvelle personne au ministère, mais qu'est-ce que vous allez foutre dans une forêt pour faire une école? Et là, il fallait réexpliquer. C'est un cadre où on va travailler sur le vivant, on va pouvoir expérimenter. L'expérimentation, ça permet à des étudiants de s'emparer de la question des ressources, des matériaux, d'avoir une sensibilité, une humilité par rapport. Et en fait, c'était ce travail de conviction. Et j'ai l'impression, pour résumer, Quentin, qu'en 5 ans, on n'a fait que répéter les mêmes choses pour qu'aujourd'hui, tout le monde puisse être à bord du projet. Et le CAP, ça y est bel et bien parti.
Donc il est parti. Donc cette année, il a été. Ça s'est concrétisé par la création d'une structure juridique.
Ouais. oui, de tout fin décembre, on a créé l'association CAP. Donc après toutes ces années de mise en route et de construction du projet, c'est une association qui est portée parmi ses membres fondateurs, entre autres. Pour les écoles d'architecture, on a les réseaux ENSAECO et ENSATELIER. Donc ENSAECO, c'est le réseau de l'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture. ENSATELIER, c'est le réseau des ateliers de fabrication des écoles d'archi. Les écoles d'architecture, l'Ordre des architectes Île-de-France également. Et puis tous les porteurs aussi locaux, donc la ville d'Évry-Courcouronnes, l'agglomération du Grand Paris Sud, le département de l'Essonne, la préfecture, la région. Ça fait énormément de monde autour de la table, mais c'est beaucoup d'enthousiasme autour du projet. Et juste pour finir sur l'aspect aussi pédagogique de la mise en route de ce projet, de la préfiguration du lieu. Tous les ateliers qui ont lieu sur place depuis le début, c'est un peu aussi des ateliers, on va dire, crash test, pour voir comment on arrive à investir les lieux et à monter cette programmation pédagogique. Et puis c'est en même temps l'occasion d'observer le patrimoine sur lequel on travaille. Donc l'été dernier, on a le DSA Patrimoine de Belleville qui a fait le diagnostic patrimonial de l'intégralité de la maison en détail et qui a été transmis à la maîtrise d'œuvre qui aujourd'hui fait les travaux de mise en sécurité du bâtiment, une agence d'architecture spécialisée dans le patrimoine. Voilà. Donc on avance aussi dans ces choses-là très opérationnelles pour construire un projet de réhabilitation qui permette d'accueillir le CAP. Donc,
voilà. Ok. Et du coup, bah, ça me pose la question... Donc, regarder dans le futur un peu. Donc, on a parlé justement de réunir des acteurs et puis du temps que ça prend. Est-ce que c'est peut-être pas facile, mais de raconter un peu quelles ont pu être les difficultés rencontrées côté grands ateliers pour que ça puisse servir aussi, même si on est vraiment dans des contextes différents, une époque différente, mais des enjeux peut-être, ou, voilà, des conseils. Sur le développement d'un tel lieu, ou enfin, ça peut être, on rentre un peu dans des sujets un peu structurels, mais je pense que c'est important ce soir, dans le contexte dans lequel on est, de comprendre que pour développer ces lieux qui viennent accompagner la pédagogie, tous ces enjeux politiques, et il y a vraiment un enjeu de repolitisation des études d'architecture, c'est hyper important parce que c'est ça qui permet de faire naître le lieu. Donc nous, souvent, formation d'architecte, peut-être aujourd'hui, ça nous mène un peu trop à imaginer un produit fini en oubliant un peu le process et en oubliant qu'est-ce qui se passe en amont de ce process de conception. Donc peut-être, voilà, on est quand même parti d'une idée un peu folle, et comment on arrive à quelque chose aujourd'hui qui tourne, quoi.
Alors c'est vrai que c'est un peu dur de gérer un lieu d'expérimentation parce que c'est un lieu qui est tout le temps en mouvement, c'est un lieu qui doit être complètement ouvert. Aux grands ateliers, on a toujours été une plateforme de soutien aux écoles, parce que les grands ateliers, c'était la suite des pédagogies qui se faisaient dans les écoles. Une des grosses difficultés, c'est de gérer des étudiants en tant que travailleurs sur des machines, par exemple, des machines professionnelles, et de les faire travailler encadrés en toute sécurité. On n'a pas eu d'accident pendant ces 20 ans d'activité au Grand Atelier. Et ça, c'est une vraie prouesse, parce que c'est ce qu'on redoute en permanence, puisque l'accident, on ne sait jamais justement quand est-ce qu'il va venir. Est-ce que ce serait trop facile? Donc ça, c'est vraiment un gros un enjeu important. Mais autrement, c'est vraiment une équipe qui travaille pour être le plus ouvert possible et écoute de tout ce qui peut se passer et toujours prête à répondre aux exigences et aux pédagogies des enseignants qui viennent bien travailler dans ce lieu.
Pour contribuer à une réponse sur ce sujet-là, je remonterai un peu en avant parce que on dit souvent c'est une idée folle qu'ont eu des enseignants, et je pense que c'est pas une idée si folle que ça. C'est une idée de base pour des architectes, hein, architecton, celui qui dirige le chantier. Donc c'est une nature profonde de notre métier que d'avoir ce contact avec la matière, les matériaux, la manière dont on les met en œuvre et la connaissance qu'on en a. Et donc ce type de lieu est absolument indispensable pour moi. Même qu'on doit être conjoint aux études d'architecture. D'ailleurs, il l'était avant. On s'est un peu éloigné. Ce qui a été une grande difficulté, du coup, c'est de réintégrer ces types d'enseignement dans les programmes des écoles. Parce qu'on s'en est tellement éloigné à un moment donné qu'on regardait le lieu de la fabrication de loin et... parsime la taille, vas-y, fais le boulot, sans qu'on ait la connaissance profonde de ce qui est en jeu. Et ça a été long à mettre en place pour pouvoir réinstaller au sein du programme de certaines écoles. Alors moi, je parle de Grenoble, mais c'est aussi valable pour Saint-Étienne, pour Lyon en partie, et puis Clermont, qui est en train de faire un énorme boulot là-dessus. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, ben, c'est que, par exemple, à Grenoble, on est arrivé à instaurer qu'il y ait dans chaque année, ça fera la transition avec la suite, des semaines d'expérimentation pour tous les étudiants. Voilà. Donc, ce côté intégration à la pédagogie a été un enjeu énorme pour qu'on forme à la fois des étudiants, mais aussi des enseignants à faire ce type de formation-là.
Ok. Donc, on a une réponse peut-être déjà dans le contexte actuel hein, de re-questionner le format des études au regard des méthodes et des contenus.
Il y a un truc aussi, peut-être qu'on peut parler, c'est... on n'avait pas pensé ça tout au début des grands ateliers, c'est ce lieu et de mettre des étudiants en immersion. Les étudiants, quand ils sont aux grands ateliers, ils sont là présents, ils vivent sur le lieu, ils sont ils n'ont pas la préoccupation de rentrer chez eux le soir, de prendre le métro, d'aller voir leurs copains. Ils sont là jusqu'à 10h, 11h du soir, ça discute d'archi, ça fait à manger, enfin voilà, c'est la gestion globale du chantier aussi qui est très très important. C'est des relations humaines, c'est toute cette semaine, parce que pendant longtemps on a eu des workshops qui étaient basés sur 5 jours. Cette semaine passée ensemble, c'était vraiment quelque chose de très important, il se passait quelque chose. Et ça, ça a été presque une découverte de voir comment s'organisait de manière très très naturelle le travail aux grands ateliers. Au-delà de la pédagogie, au-delà de l'architecture, c'était vraiment cette chose qui rassemblait les étudiants. Et le regard étudiant et enseignant était complètement bouleversé. Et ça restait après sur l'ensemble du cursus des études.
Ok, merci. Et du coup, c'était pour rebondir un peu sur cette question de l'effort nécessaire dans une école pour dégager du temps, pour être en capacité d'utiliser ce type de lieu ou d'autres lieux. Hein. Toutes les expérimentations à Grenoble ne se font pas forcément aux grands ateliers. Donc ça, c'est un premier travail qui peut faire l'objet d'une demande dans les écoles. Hein, on sait que le faire est une demande par les étudiants et les étudiantes. Et peut-être pour conclure un peu sur ce sujet-là des lieux-outils, une réponse chacun, mais du coup, si vous aviez un message à faire passer sur quelque chose peut-être qui bloque encore aujourd'hui ou qui est nécessaire pour aller plus loin, parce qu'on parle des moyens dans les écoles, et du coup, c'est directement lié aux moyens qu'on va donner aux structures qui doivent accueillir ces mêmes pédagogies. Donc, est-ce que peut-être c'est Bruno sur la question où tu as parlé de diversification de l'activité aux grands ateliers? À un moment, donc sur les pratiques, et bon, c'est lié à la fois à la forme juridique que ça a pris, mais peut-être qu'il y a un enjeu là-dessus.
Alors, oui, les grands ateliers ont évolué beaucoup pendant ces 20 ans, et notamment aussi le ministère de la Culture, qui était le financeur premier des grands ateliers, a fait évoluer, entre guillemets, les grands ateliers, même si ça s'est fait un peu dans la douleur, puisque les subventions sont tombées d'une manière assez importante. Et il a fallu, on va dire, transformer aussi le statut juridique et la manière de penser justement l'activité au grand atelier. Donc là, il y a eu une diversification énorme des propositions venant des grands ateliers. On s'est mis à créer de l'enseignement, puisque au départ, on n'était pas fait pour, on n'était qu'une plateforme qui recevait de la pédagogie venant des écoles. Et avec le nouveau directeur, Maxime Bonnevie, on a créé des enseignements, on a fait des propositions, on a fait du prototypage pour différents domaines, pour les entreprises, beaucoup de formation, de la formation continue, de la formation permanente. Pour les architectes, on a formé beaucoup, beaucoup d'architectes et des agences d'architecture autour de la construction en terre, parce qu'on avait la chance d'avoir le labo à Mako qui était une très grosse ressource. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui a fait évoluer les grands ateliers, avec les compagnons aussi, puisque les compagnons occupent cette plateforme pour faire de la formation pour eux. Enfin voilà, c'est tout cette diversité qui a fait évoluer les grands ateliers, même si au départ c'était un peu contraint, forcé par le manque d'argent.
Ok. Pascal.
Et au sein des écoles, les écoles sud-est, Rhône-Alpes ont mobilisé des moyens spécifiques dans la pédagogie et ont attribué des sommes pour faire les expérimentations pour les étudiants. Ils sont allés chercher beaucoup d'argent auprès de la région, qui est un financeur principal. Et actuellement, les liens que l'on développe au sein de l'Université de Grenoble-Alpes, puisque l'école de Grenoble, par exemple, est membre associé de l'IDEX Grenoble-Alpes, eh bien, il y a des financements spécifiques qui sont fléchés sur la formation pratique au sein des formations d'enseignement supérieur. Et, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la recherche aussi, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes chercheurs qui font des doctorats en architecture, qui utilisent du prototypage ou la nécessité de faire des expérimentations à l'échelle 1, par le biais des différentes chaires que hébergent les grands ateliers, comme la chaire Habitat du Futur. On a des étudiants doctorants de Lyon qui ont fait des prototypes pour une façade Jean Prouvé à Lyon, pour une serre agricole à Annecy et Chambéry, et puis une autre qui est en train de travailler sur un dispositif d'absorption du son sur les gratte-ciels à Villeurbanne.
Ok. Et pour le mot de la fin, pour le cap, sur le...
Venez. Voilà, c'est tout simple. On est en train de se construire.
Tu t'adresses aux enseignants, du coup.
Aux enseignants, aux étudiants, aux professionnels aussi, parce que ça en fait partie. Mais non, tout simplement, venez. Et puis pas seulement ça, mais voilà, le cap, c'est toutes les forces vives qui sont autour. Et parmi le comité de pilotage pédagogique, il y a les enseignants, mais ce serait bien qu'on ait aussi des étudiants, parce que c'est pour vous qu'on fait ça, après tout. Donc voilà, après, sur les aspects financiers, techniques et autres, c'est des complexités. Voilà, ce serait trop long d'en parler maintenant. Mais oui, voilà.
Okay. Je sais
pas si tu veux...
Ah non, très beau mot de la fin. J'adhère.
Merci beaucoup pour votre écoute. Ces temps d'échange ont pu voir le jour grâce au travail mené par Bellastock avec un conseil scientifique composé de la preuve par 7, les grands ateliers, le DU Espace Commun, Yes We Camp, le collectif ETC, la revue Topophile, Théma Prod, le réseau ENSA Eco, Colline Madeleine de l'ENSA Paris-Belleville, Alessandra Bruno de l'ULB Bruxelles et Roberta Gelli de l'ENSA Grenoble. On vous donne rendez-vous au festival Bellastock pour poursuivre la discussion et profiter d'une programmation autour de l'apprentissage par le faire avec le déjà là et surtout le partage de savoir-faire entre artisans, étudiants, habitants et publics invités. Toutes les informations sur bellastock.com.